France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, pas de canal 27 d'ATNT, hein, puisque nous sommes uniquement en radio. France Télévisions a besoin de vacances, donc laissons-les se reposer. Juste au départ, merci à Sofiane pour ses différents mails et notamment son dernier message. Il nous envoie toujours plein d'articles. Et là, cet article du journal 20 minutes à Toronto, c'est un article passionnant qui vaut surtout pour son titre. C'est Canada, un ado peint sa jument en rose fluo après avoir mal compris une consigne de sa mère. Alors quand on a un artiste dans la famille, c'est quelque chose. Hein. Je vous conseille de le lire, ça vous permettra de comprendre pourquoi votre enfant n'écoute pas, notamment en vacances. Donc officiellement, l'Institut de Zoologie Internationale peut compter un cheval rose dans la faune de l'humanité. Bravo à lui. Et eux, ils ne connaissent ni vacances, ni repos. Jamais. Ce sont les damnés de l'actu. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraud. Bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais savoir ce que la mère a dit pour que le gamin ait compris.
Alors en fait, je vais vous dire clairement, il a très mal compris. C'était en fait tout simplement, il y avait un incendie. Il lui a demandé d'inscrire les numéros à la peinture sur le cheval. Comme ça, s'il s'en va, on pourra le retrouver. Et on ne sait pas comment cet ado a confondu le numéro et la peinture rose.
Ce qui est déjà une idée bizarre au départ.
Exactement, voilà. Également, le député de Seine-Saint-Denis, France Insoumise, Alexis Corbière, bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Le chef d'entreprise Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Et Sybille Vincendon, bonsoir, de Libération.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons du Front National disparu au large, des économies à tous les étages, de la résistance face au Sénat. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors que la France sombre peu à peu dans une délicieuse torpeur estivale, que la chaleur frappe les corps et les grilles de Sudoku deviennent plus importantes que les grilles des plannings, un homme n'en démord pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Nous ne savons pas où le chef de la France insoumise part en vacances, mais nous disons attention aux professionnels du tourisme sur place. Mélenchon est très en forme en ce moment. Le moindre souci, et il vous met un foutoir dans la station balnéaire. Si le loueur du bord de plage n'a plus de jokari, Mélenchon peut devenir tout rouge. En appelé au coup d'état balnéaire contre les congés payés des prolétaires parlementaires. Hier soir sur TF1, le député des Bouches-du-Rhône est revenu sur la loi travail et les ordonnances facilitant son adoption et a condamné un coup d'état social avant d'appeler à se mobiliser le 23 septembre prochain. Mais aujourd'hui, eh bien, on a appris que la députée, l'eurodéputée frontiste Sophie Montanel avait envoyé un signalement à François Molins, producteur de la République de Paris, visant Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était député européen, également pour des histoires d'assistants parlementaires. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Il s'en expliquait aujourd'hui en conférence de presse. Attention, tendez bien l'oreille, le son est moyennement bon, Jean-Luc Mélenchon.
Aucun de mes assistants n'a jamais exercé aucune responsabilité politique, ni à l'intérieur du parti de gauche, ni pour la France insoumise. Jamais aucun, de toute la période du Parlement européen. Donc je ne sais pas pourquoi on me cherche noix, je verrai. Parce que c'est ça qui est reproché à Mme Le Pen. Hein.
Voilà, donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors Alexis Corbière, on vous a entendu tout à l'heure, donc journal de 20h, là vous êtes là de vite vue. Comment vous prenez justement cette affaire? Est-ce que vous avez l'impression de rejoindre le Front National, le MoDem, aujourd'hui sur le banc des partis
Non, mais attendez, Jean-Mathieu Pernin, il n'y a rien qui nous est reproché. Hein. La justice n'a rien dit. La seule chose qui a eu lieu, c'est qu'il y a une dirigeante du Front National, fort empêtrée dans toute une série d'histoires, qui fait qu'on appelle de la dénonciation complémentaire, c'est ça?
Mais oui. Pardon, le parquet a quand même étendu l'enquête.
Oui, bah évidemment, oui, si je me présente devant un juge...
La justice a dit quelque chose.
Certes, mais si je me présente devant un juge et que je dis Madame Vintraub hier soir a assassiné son mari, peut-être que le juge va faire une enquête préliminaire pour savoir si c'est vrai. Voilà, donc ça ne prouve rien.
Mais ne dites pas que la justice n'a rien dit.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, la seule chose qui a eu lieu, c'est une dénonciation de la part du Front National. Je ne vais pas refaire même référence que tout à l'heure. Très bien.
Pourquoi dans le Front National? Une saisie du parquet.
Oui, très bien. Parce qu'évidemment, le parquet, instruit de cela, veut savoir quelle est la réalité. Et moi, je vous dis, pour reprendre une célèbre citation du président Chirac, tout ça va faire pchit. Voilà, parce que Mélenchon l'a dit. Il n'y a que dalle. Mais c'est amusant de voir à quel moment ça se situe, précisément au moment où on lance un grand SOS, où est le Front National, parce qu'il me semble qu'il est aujourd'hui face à toute une série de difficultés, d'ordre politique, et puis aussi d'ordre judiciaire. Mais je veux lui dire les choses clairement, il n'y a eu aucun emploi fictif. Mais même, pour ceux qui connaissent Jean-Luc Mélenchon, tout le monde comprendra. Mélenchon, on n'avait qu'un seul parlementaire européen, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Son équipe a bossé pour lui, Jean-Luc était sur tous les fronts. Un blog qui publiait des notes où on expliquait tous les votes de Jean-Luc. Une suractivité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mélenchon, il était en suractivité. Croire que sur cette enveloppe, il y avait quelqu'un qui n'était pas employé à essayer de faire, à enrichir le travail du parlementaire Mélenchon, mais était payé à faire autre chose, est une vaste blague. D'accord? D'ailleurs, sur les noms qui sont évoqués, parce que je regardais la presse, je le dis, aucun n'a jamais été ni un dirigeant du parti de gauche, ni un dirigeant de la France Insoumise, ni même candidat candidat à la moindre élection, à la différence du Front National, où on a retrouvé des gens qui étaient assistants parlementaires et qui étaient en même temps des grands dirigeants du FN ou des candidats. Bref, c'est une manœuvre. Voilà.
Parce que c'était pas le plus présent non plus au Parlement européen. On le sait,
mais c'est faux. Alors, ça, c'est fake news.
Fake news. Ah bon, d'accord.
News,
ah, bon, d'accord. Le Parlement, non, doit, le Parlement doit se tromper. Alors, parce que, souvent, on appelle
parce
des
que déjà, il y a deux systèmes de calcul faits au Parlement, mais Jean-Luc était présent au Parlement européen. Après, il est vrai qu'il a quand même été accessoirement candidat à l'élection présidentielle, donc pendant un petit moment, il a fait campagne, mais il était présent, il posait de nombreuses questions, il avait une activité. C'est le seul, d'ailleurs, tous ceux qui font la leçon, donnez-moi le nom d'un seul député européen qui avait un blog où il expliquait tous ses votes aussi fournis que ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Je crois que dans la mesure... Moi, j'aime pas cette accusation. Mélenchon, c'est sans doute le parlementaire européen le plus connu, celui qui parle le plus d'Europe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui a écrit des ouvrages de critique sur l'Europe. Ils sont où, là, toute la liste de ces parlementaires européens dont on n'a plus jamais entendu parler? Vous savez, je vais dire en gros mots, il y en avait un qui parlait, qui s'occupait d'Europe dans le gouvernement précédent, sous François Hollande, il s'appelait Harlem Désir. Vous savez ce qu'il faisait, cet homme?
C'est vrai, il
s'occupait rien, des non, mais rien. Et les députés socialistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais bon, voilà, le seul qui parle d'Europe, qui critique l'Europe, après on a le droit de critiquer Mélenchon, mais dire qu'il foutait rien au Parlement européen, comme disent certains, c'est une attaque sous la
ceinture. Xavier Alberti, est-ce que vous pensez que... chaque parti aujourd'hui finalement va avoir droit. Alors c'est le Front National qui a été les premiers touchés, qui aujourd'hui envoie sur le MoDem. On a vu aujourd'hui les dégâts qu'il y a eu au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, François Bayrou, également Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard. Là, Jean-Luc Mélenchon, ça peut continuer comme ça?
Oui, enfin, je pense que tous les partis peuvent être à la merci de découvertes de ce genre-là, parce que la frontière est ténue. C'est compliqué à un moment donné de dire quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça continue, quand est-ce que je suis dans mon mandat de député, quand est-ce que je suis dans autre chose. En l'occurrence, moi, il y a des choses qui me choquent et qui sont totalement légales. Ce qui me choque, c'est qu'effectivement, on puisse être député européen jusqu'au terme de son mandat et candidat à la présidentielle. C'est-à-dire à temps plein candidat à la présidentielle, parce qu'on peut pas être candidat à mi-temps, c'est pas possible, mais continuer à être député européen et toucher ses émoluments de député européen. Et c'était le cas pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas que lui. Et il y en a d'autres qui étaient candidats en étant député de l'Assemblée nationale. Et pour moi, ça me choque de la même manière. Le sujet des assistants, et en l'occurrence de ceux de Mélenchon, franchement, je ne vais pas me prononcer là-dessus, j'en sais strictement rien. Et on va attendre qu'il y ait un juge d'instruction qui dise quelque chose.
On va continuer à en parler, je vous assure, Julie de Vintraube, ne vous inquiétez pas. Dans un instant, l'info à 20h10, c'est Emmanuel Langlois.
7 départements de Normandie et de Nouvelle-Aquitaine en alerte aux orages. Ce soir, la vigilance est en revanche levée en Bretagne, où près de 9000 foyers restent ce soir privés d'électricité à cause de ces fortes averses, parfois accompagnées de grêle. Le tribunal de commerce de Poitiers se prononce demain, mercredi, sur la reprise de l'équipementier GMS. Selon Bercy, il manque 5 millions d'euros, refuserait de payer les constructeurs automobiles. Les salariés de GMS bloquent ce soir le site Renault de Villeroy, dans l'Yonne, pour protester. Lors d'une réunion au Sénat, une audition, Nicolas Hulot reconnaît que l'objectif de la France de réduire de 75% à 50% la part du nucléaire dans sa production d'électricité d'ici à 2025 sera difficile à tenir. Et puis l'Australien Michael Matthews qui remporte au sprint la 16e étape du Tour de France après examen de la photo finish. C'était tout à l'heure à Romans-sur-Isère. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune de leader. Il avait été libéré de sa dernière année de contrat par l'Olympique Lyonnais. L'international français Christophe Jallet s'engage à l'OGC Nice pour une durée qui n'est pas précisée. Et puis cet Hibernatus helvétique, un couple disparu depuis 75 ans dans le massif des Diablerets dans le sud de la Suisse, a été retrouvé momifié dans les neiges d'un glacier à 2615 mètres d'altitude.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernard.
Les informés de France Info, nous parlons de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va parler de son interview hier sur TF1, mais juste avant, Julie de Vintraube, vous vouliez rajouter sur les attachés parlementaires européens.
En fait, j'ai les mêmes incompréhensions que Xavier Alberti, c'est-à-dire comment on fait quand on est à la fois eurodéputé et qu'on a des ambitions nationales et qu'on a une carrière nationale pour compartimenter à ce point ses activités. J'ai du mal à y croire. Cela dit, c'est la règle au Parlement européen, qui est plus strict dans ce domaine que le Parlement national, le Parlement français. Quand on est élu d'une assemblée, on accepte la règle. À part ça, je suis ni flic ni juge, donc je me garderais bien d'avoir une opinion sur le fond du dossier.
Cela étant, il y a quand même quelque chose par rapport à cette histoire d'assistant parlementaire. Soit on est dans la situation du Front national, les gens, ils n'ont jamais badgé, ils ne sont jamais venus, ils s'occupent à autre chose en France, c'est clair, net, précis. Bon. Sinon, on est dans une situation qui ressemble plus à celle du MoDem, où leur axe de défense, ça a été qu'ils avaient droit à un assistant parlementaire qui est aussi, qui travaille sur le travail du député dans sa circonscription. Oui. Là, on arrive dans un domaine où les choses sont tangentes. Alors, c'est peut-être pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais en l'occurrence, cette histoire, elle est compliquée à débrouiller, et on voit bien, effectivement, la grosse, grosse manœuvre du Front National qui tire tout ce qu'il peut en défense, quoi.
Non, mais alors, on peut faire une critique, là, on sait encore, en plus, nous, on n'est pas concernés par ça, mais il y a une évolution d'une forme de fonctionnarisation d'un assistant parlementaire que moi, j'approuve pas. Moi, j'ai recruté des assistants parlementaires.
Nous sommes bien d'accord, mais ça aurait été bien de le dire avant, vous voyez.
Mais nous, on l'a toujours dit, par ailleurs, cette évolution du Parlement européen. En fait, même, ils veulent des élus fonctionnaires qui quasiment... j'en vois parfois des gens qui critiquent « Ouais, Mélenchon, il touche l'indemnité de parlementaire, il critique l'Europe. » Mais encore moins, il a le droit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je suis contre la 5e République, je suis contre la 5e République et je siège à l'Assemblée nationale et j'ai été élu, je serai peut-être battu la prochaine fois. Et les gens que j'ai recrutés également pour être mes collaborateurs sont des gens que j'avais remarqués, des gens diplômés par ailleurs, pendant la campagne et qui ont fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Et franchement, j'ai reçu des tas de CV, je tiens à le dire, parce que j'ai reçu beaucoup de courriers. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je ne recrute pas quelqu'un que je ne connais pas, qui a un beau CV parfois, parce que je pense que c'est une forme de boulot un peu particulier, qui nécessite un engagement, et pas, c'est pas un job comme un autre. Voilà, c'est pas un boulot.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre l'interdiction des emplois familiaux par les parlementaires?
Ben, je vais vous dire là, en raison des scandales qui ont eu lieu, oui. Mais sur le fond, d'un point de vue théorique, on pourrait discuter. Oui. Par exemple, quand Claude Chirac travaillait aux côtés de Jacques Chirac, je pense que Madame Chirac avait une utilité réelle. Elle était sa chargée de communication. Et moi, qui suis aussi père de famille, qui ai des enfants, j'imagine qu'on peut, apprécier, avoir une proximité avec sa fille, qui n'était pas un emploi fictif. Là, je parle de Madame Claude Chirac. Le problème de Monsieur Fillon, c'est que le cas particulier, c'est qu'il ne pouvait rien justifier de l'activité de Madame Pénélope Fillon. Donc, comme il y a eu des scandales aussi.
On verra à la fin.
Non, mais on verra à la fin. Oui. Enfin, en gros, on peut imaginer.
Respecter la présomption d'innocence.
J'entends bien,
que vous demandez.
Mais je pense que s'il y avait eu des matérialités, le problème aurait pu être purgé beaucoup plus rapidement.
C'est un peu ce qu'on peut penser.
Voilà. Alors,
mais je me trompe peut-être.
Alors Jean-Luc Mélenchon, on verra en tout cas l'évolution de cette affaire. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'en ce moment, bon, bah, c'est l'été, lui, il est très actif. Hein. Alors, on a appris que le 23 septembre prochain, il appelle à manifester contre la loi travail. Alors que la CGT appelle à manifester le 12 septembre. Alors, avant d'avoir votre avis, justement, Alexis Corbière, Xavier Alberti, est-ce que vous avez l'impression, voilà, qu'il y a un double jeu. Il y a aussi le jeu entre guillemets de l'opposant officiel, finalement, aujourd'hui. A gagné à se mettre en avant de la part de Jean-Luc Mélenchon plutôt que d'appeler à voter, à manifester le 12 septembre, d'organiser sa propre manifestation.
Ah oui, c'est évident. On l'avait dit d'ailleurs, je crois, dans les informés déjà il y a quelques temps. Le vrai sujet, c'est le leadership dans l'opposition.
Mais il l'a posé
dans la majorité,
tout de suite.
Il sera simple.
Il l'a posé tout de suite, ouais, Mélenchon. Il a dit je serai le chef opposant.
Oui, mais il suffit pas de le dire. Il faut l'incarner. Et il est assez bon pour le faire. Et effectivement, à un moment donné, poser les actes sur la table qui vont lui permettre de prendre le leadership face à, en particulier, un parti socialiste qui est inexistant et qui reste inexistant pour l'instant à l'Assemblée nationale. Puis à mon avis, ils vont pas faire du bruit immédiatement. Et effectivement avec la nécessité de se distinguer et des courants syndicaux et du Parti communiste, en tout cas dans cette séquence-là précisément. Après, je pense que l'idée sera de rassembler probablement autour de cette opposition. Ouais. Mais on est dans la tactique pure. Ouais.
C'est ça, j'ai dit d'intro pour
vous. On est d'autant plus là-dedans que, comme Sybille l'a souligné, Jean-Luc Mélenchon l'a revendiqué, c'est son objectif, et que par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont des élus qui contestent le système grâce auquel ou par lequel ils ont été élus. Ils contestent la 5e République, ils estiment que l'Assemblée nationale telle qu'elle est n'est pas représentative. Ce sont des opposants au système de l'intérieur. Donc, quoi d'étonnant dans ces conditions à ce qu'ils s'en appellent à la rue et qu'ils aient...
Non plus, quand même pas.
Et qu'ils aient... En fait, il y a un double terrain d'activité. Il y a le terrain parlementaire... où à cause du nombre limité de ses représentants, la France insoumise est assez contrainte. Elle fera son boulot sans doute, mais on n'attendra pas d'elle, par exemple, qu'elle réussisse à faire passer des propositions de loi.
Peut-être convaincre.
En tout cas, la rue, ça sera plus facile de se faire entendre.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, là, pour prendre un jargon qui vous est propre, de diviser les luttes, justement, là,
parce que...
12 septembre, la CGT, le 20 septembre, c'est vous, et pourquoi pas
Jean-Mathieu Pernin, malgré toute l'affection que j'ai pour vous, me décevez.
Mais pourquoi?
Parce que vous nous prêtez de noirs desseins. Déjà, on appelle à manifester le 12 septembre. Ça ne s'oppose pas. Le 12 septembre, c'est en semaine. C'est appelé par des organisations syndicales. D'accord. Le 23 septembre, c'est un week-end, place de la Bastille. Le respect des organisations syndicales qui appellent avec leur mot d'ordre, dans lequel ce sera les dirigeants syndicaux qui mèneront la journée du 12, à laquelle nous appelons d'ailleurs, peut se compléter par un rassemblement politique.
D'accord.
Le 23 septembre.
Il fallait le préciser parce que c'était pas obligé.
Ça n'est que, voilà, il y a des gens qui, c'est pour s'opposer, mais nous avons besoin d'un mouvement syndical qui a ses propres rythmes, son propre discours. J'observe d'ailleurs que ce que dit Monsieur Martinez, c'est une chose. Il faut surtout, moi je suis pas dirigeant syndical, je fais de la politique et ce serait fort maladroit de parler au nom des organisations syndicales. Mais à l'inverse, ce respect que j'ai pour les organisations syndicales doit entraîner l'idée que je peux aussi politiquement m'exprimer sur la loi travail. Et j'exprime, et d'ailleurs ça a été intéressant lors des débats qu'on a eu au Parlement, c'est que En Marche était sur une position qui consiste à dire en gros, la question du droit du travail, c'est les patrons, les syndicats, et nous on n'a pas d'opinion. Nous on pense que la société, la République, a aussi une opinion qui ne se limite pas à écouter ce que les syndicats et les patrons ont à dire. Il y a un intérêt général. Et par exemple, il peut y avoir au sein d'une entreprise un accord passé entre les syndicats et les patrons qui, d'un point de vue de d'intérêt général, de l'ordre social, ne me convient pas.
Comment vous expliquez, Alexis Corbière, que certains syndicats soient plus conciliants qu'avec Myriam El Khomri, cette fois-ci, comme force ouvrière, par exemple?
Je tiens à dire, oui, alors déjà, je tiens à dire que le principal syndicat qui s'appelle la CGT est hostile à la loi travail, à ce qui est en
la CFDT,
en
train de la CFDT,
dans la fonction publique.
Non, une fois qu'on additionne le public et le privé, le premier syndicat.
Oui, mais c'est le premier syndicat. On arrive.
Mais non, mais c'est le premier syndicat.
D'accord.
Alors là, mais je dis de 23. Même si ça vous agace, la CGT, c'est le premier syndicat.
Non, rien ne m'agace. Je veux juste rappeler que.
Non, mais attendez, je dis,
il s'est passé 2-3 trucs dans les champs syndicales.
Même la CFDT, qui est fort accompagnante, là, s'inquiète, et elle a bien raison, de la fusion des IRP, des instances de représentation du personnel, et Force ouvrière aujourd'hui sur une position. Moi, je vais pas donner mon opinion parce que je vais pas me forcer avec Jean-Claude Mailly, mais qui consiste quand même à attendre parce que c'est toute la difficulté de nos débats. À l'heure actuelle, il y a une tenue de camouflage idéologique. Moi, j'attends fin août et début septembre, quand les ordonnances seront rédigées, que le texte de loi sera sur la table, vous allez voir ce que vous allez voir. Et beaucoup de gens vont s'apercevoir de la réalité de ce texte, qui est un texte de régression sociale.
6 000 Vincent, non.
Oui, quand même, il y a une chose qui est frappante, c'est que on a l'impression que, d'abord, la CFDT, elle est quand même majoritaire dans le privé. Et le privé, il me semble qu'ils seront les premiers concernés par la loi travail.
Elle n'est pas majoritaire, elle est arrivée légèrement en tête de la CGT.
Allez.
D'accord. Donc, elle est légèrement en tête de la CGT. Elle est arrivée devant dans le privé, qui sera aux premières loges pour les modifications du Code du travail. Donc, ils sont quand même assez légitimes. Et par ailleurs... Je trouve que Jean-Mathieu exagère à venir vous chercher sur les deux dates. D'un côté, c'est les syndicats qui défilent, de l'autre, c'est vous. Vous faites bande à part. De toute façon, il y en aura des quantités. Il y en aura des quantités.
On va y revenir. On en revient dans un instant. L'info à 20h20. C'est Emmanuel Langlois.
François Léotard, mis en examen dans l'affaire Karachi, les enquêteurs se demandent si l'ex-ministre de la Défense n'a pas cherché à se constituer un trésor de guerre en vue de la présidentielle de 2002 dans la vente de sous-marins au Pakistan en 1994. Cette personne, dont 4 migrants arrêtés sur le tarmac de l'aérodrome de Marque, près de Calais, c'est une première. Il tentait de rejoindre l'Angleterre à bord d'un petit avion. Tous les élèves ne seront pas longés à la même enseigne à la rentrée de septembre. Près d'un tiers des écoles primaires optent en effet pour le retour à la semaine de 4 jours, à la place de 4 jours et demi instaurés sous les quinquennats de François Hollande, chiffre de l'éducation nationale fourni aujourd'hui. L'Église, frappée par un scandale sans précédent en Allemagne, une enquête révèle que plus de 500 garçons et jeunes adolescents du célèbre chœur catholique de Ratisbonne ont été victimes de sévices, dont des viols, entre 1945 et le début des années 90. Le bronze du 10 km en eau libre, 3 jours après l'or du 5, Marc-Antoine Olivier enrichit encore sa collection de médailles au championnat du monde de natation 7 ans Hongrie.
France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, le député de Seine-Saint-Denis, France Insoumise, Alexis Corbière, chef d'entreprise Xavier Alberti et également Sybille Vincent Don de Libération. Nous parlons de Jean-Luc Mélenchon, de sa tactique de la France Insoumise qui est droit devant pour contre la loi travail, la nouvelle loi travail. Xavier Alberti, juste une chose, quand hier Jean-Luc Mélenchon sur TF1, journal de 20h, emploie ce terme de coup d'état social envers Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de ce terme, coup d'état social?
J'ai envie de dire, ça pourrait être grave, hein, puis venant de Mélenchon, ça l'est pas forcément tant que ça, parce que c'est de la com aussi. Mais c'est grave. 2 mois après l'élection présidentielle, on a eu 4 tours, sans compter les primaires. 4 tours. 2 tours de présidentielle, 2 tours de législative. Il y a eu des majorités. Alors, qu'il y a eu des abstentions, c'est un fait, on le regrette tous. Mais il y a des majorités. Les gens qui ont été élus l'ont été démocratiquement. Ils ont porté un projet qui était sur la table et qui est toujours sur la table sans modification. Voilà, les ordonnances, on le savait. La loi de travail 2, on va l'appeler comme ça, on le savait.
Personne n'a été élu.
Tout ça, était clair. Tout ça était très clair. Et aujourd'hui, on essaye d'opposer à l'élection légitime de ses représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée, le fait qu'il y ait eu de l'abstention et que donc il faudrait qu'il y ait une sorte de coup d'État social qui vienne imposer les choses. C'est pas vrai. Il y a eu un débat, il y a eu des propositions, il y a eu un vote. Et il y a eu une majorité autour de ce projet.
Oui, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le regard et l'analyse que la France insoumise fait de nos institutions actuelles, de cette élection. Je parlais des législatives tout à l'heure, en l'occurrence, et la présidentielle, c'est pareil. Elle estime que tout ça est entaché d'illégitimité et qu'elle sera légitime, on ne sait pas pourquoi, si au nom du score obtenu par Jean-Luc Mélenchon au premier tour...
Non, mais écoutez-nous dans le détail, on ne dit pas que nous, on est légitime et pas les autres.
Juste Alexis Cobia.
Vous savez mieux que moi ce qu'on nous disons. Justement, nous disons que même nous, l'abstention nous a touchés.
On a des interprétations différentes.
Avoir votre avis sur ce terme de coup d'État, en fait. C'est quand même assez dur. Vous êtes quoi, coup d'État plus 18 Brumaire de décembre?
Non, mais coup d'État social, ça a été dit, c'est une formule choc pour attirer l'oreille.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, coup d'État?
Alors, ça veut dire sur le fait qu'il n'y a pas de légitimité, effectivement. Il y a une majorité politique aujourd'hui. Moi, j'ai lu les tracts de M. Macron. Il avait dit une modification drastique du Code du travail. Il n'a pas été dit, par exemple, que quatre choses allaient être retirées du Code du travail en matière de compte pénibilité. Jamais ça a été dit pendant la campagne. Il n'a pas été dit par M. Macron que nous allons mettre en place un plafond des indemnités sur les licenciements.
Non, mais c'est pas ça. Ce que je dis,
c'est que sur un sujet aussi important, qui concerne 18 millions de salariés, au minimum, le parlementaire que je suis et mes 576 petits camarades devraient pouvoir en discuter, pas par ordonnance. Et moi, je touche une indemnité que certains vont juger confortable, mais au moins je veux être parlementaire. Et je dis à mes amis de La République En Marche, qui acceptent l'idée que c'est par ordonnance, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont discuter de ça, qu'ils rendent leur indemnité. Je le dis cash.
Mais vous les avez discutés, les ordonnances, le contenu de ces ordonnances?
Non, que dalle. C'est le. Attendez, Jean-Mathieu Pernin, vous avez suivi le débat. Oui. Qu'est-ce qui rend tout compliqué? C'est que c'est un gigantesque nuage de fumée. En permanence, on nous a dit on ne va pas toucher à la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que le contrat, c'est-à-dire que le Code du travail va être à nouveau, la loi va être supérieure aux accords d'entreprise.
Je ne crois pas que Macron, candidat ou Macron élu, ait dit ça. Au contraire, c'était son objectif.
Il a dit
était
on ira
d'aller
plus loin
plus
que la
Bravo, vous parlez d'or. Alors, c'est ça la difficulté, c'est que quand la ministre me répond à moi, qu'elle dit que je fais un procès d'intention et que j'amende inverser la hiérarchie des normes, mais que d'autres parlementaires de République En Marche au cours du débat disent qu'il faut inverser la hiérarchie des normes, je dis que non, sur quelque chose d'aussi grave, j'aimerais qu'on y voit un peu clair. Et je prends les paris, parce que Jean-Mathieu, vous me réinviterez, comme d'autres,
bien sûr.
Fin août, début septembre, on va voir la réalité du texte. Et je dis que d'un seul coup, les gens, quand ils vont réaliser que c'est de la loi El Khomri XXL, ils seront pas contents.
Mais si ça a été vendu comme ça, excusez-moi.
Xavier Alberti, c'est vrai que Emmanuel Macron, alors il y a peut-être des choses qu'il n'a pas dit, mais il a parlé de la loi El Khomri. Il a dit qu'il irait plus loin pendant la campagne. Donc,
on imaginait bien qu'il n'allait pas aller, en tout cas,
en retrait.
Alexis.
Oui, j'entends.
Parce que là, on va bien.
C'est ça.
Et moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut affirmer, et vous le faites à chaque fois, qu'il n'y a pas de légitimité autour de cette loi-là ou de cette approche-là. Comment vous pouvez dire qu'il y en a une contre?
Non, je sais pas s'il y en a une contre.
Mais c'est ça que vous dites,
Xavier. Je ne sais pas s'il y en a une contre.
Je dis que
comme je pense qu'il n'y a pas de majorité, je dis que sur un sujet aussi sensible, les Français doivent être informés. C'est pourquoi nous faisons des rassemblements. Et je dis attention, parce que les choses sont, on va toucher à des décennies de construction sociale qu'est le Code du travail. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et je considère qu'un homme qui s'appelle Monsieur Macron, certes qui fait, vous me rappellerez les chiffres, mais 14% des électeurs inscrits au premier tour de l'élection présidentielle, ceux qui reportaient au nombre de... Voilà. Donc c'est quand même une base assez petite, qui gagne essentiellement, je vais le dire, dans un rejet, et c'est heureux, de Madame Le Pen. Je pense qu'il y a une arrogance, et je le dis comme ça, de la part de ce pouvoir qui profite de l'occasion pour casser le code du travail. Et je dis
mais
attention, retour de bâton sera terrible.
Alexis, si Macron fait 14% des inscrits, ça veut dire que Mélenchon Mélenchon en fait.
Très bien.
Mais Mélenchon, il n'arrive pas à casser le code du travail.
Non, mais donc il est encore moins. Non, enfin, il serait arrivé.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Il aurait cassé d'autres choses, en l'occurrence.
Alors, je voudrais juste qu'on
Ait pas. Oui, oui. Il commençait par casser la 5ème République, c'est pas rien.
Par une assemblée constituante.
Si vous aviez été élu dans les mêmes conditions, vous ne seriez pas en train de nous expliquer que vous n'êtes pas légitime. Vous seriez en train d'appliquer votre programme. Déjà, vous auriez fait la constituante, donc casser la 5ème.
Ah non, c'est pas grave. On va juste écouter.
On est en train de préparer des ordonnances sur la base constitutionnelle de ces institutions, du travail en Assemblée nationale, de la représentation nationale. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État social. Il n'y a pas de putsch. Il n'y a pas de coup de force, quoi. Faut être sérieux.
Judith Vintraube.
Non, juste un tout petit point sur le vocabulaire. Vous dites, oh, on dit coup d'État social pour marquer les esprits. Dans une démocratie, la représentation nationale, d'une part, les syndicats, d'autre part, et les autres corps intermédiaires sont là pour civiliser le débat démocratique, sont là pour permettre justement que le débat démocratique ne tourne pas à la foire d'empoigne. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle d'un parlementaire d'utiliser ce vocabulaire-là, d'exacerber les tensions? Est-ce que ça fait avancer le public autrement que à la gloire éventuelle, on verra à la fin, de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, Sylvie Vincent.
Ça m'ennuie, Judith, d'être d'accord avec vous sur un point.
Ça ne nous arrivera pas si souvent.
Voilà.
Vous en faites
mais
pas.
Une fois exceptionnellement. Non, je trouve effectivement très, très compliqué de revendiquer d'être, d'une part, le patron de l'opposition, d'être donc dans la mécanique parlementaire, avec tout ce que ça implique, et d'utiliser des termes pareils. Mélenchon, c'est un lettré, c'est un érudit, et chaque mot qu'il utilise, il sait comment il l'utilise. Ça, il ne fait pas des bêtises. Il n'est pas en train d'être dans des logorées comme Sarko pouvait en avoir par moment, complètement hors contrôle. Il n'est jamais hors contrôle. Donc pourquoi il parle de coup d'État?
Je sais qu'il y a, bon, il y a eu beaucoup d'histoires, les insoumis sans cravate, pas de cravate, mais là, il faut rendre à l'heure. Vous savez, voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, je suis obligé de vous mater là-dessus. On revient dans un instant, les informés de France Info. On parlera également des augmentations, peut-être d'impôts à venir. On parlera du Front National. Et en attendant, on file à Météo France.
France Info Météo. Avec CIC et vous, bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Attention aux orages, ils peuvent encore être forts ce soir sur la Normandie, sur l'Aquitaine, avec des pluies parfois intenses, de la grêle et du vent. Demain matin, on aura des averses et des orages du bassin parisien au nord de la Seine, sous un ciel bien nuageux. Quelques averses aussi, de l'Aquitaine jusqu'au centre, plus éparses tout de même sur le nord-ouest. En revanche, il restera beaucoup de soleil de la Méditerranée aux régions de l'Est. Le vent d'autan sera assez fort, le vent de sud en vallée du Rhône également. Il fera souvent 19 à 23 degrés. Et puis l'après-midi, des orages reprendront du service du sud-ouest vers le massif central, le Pas-de-Calais, l'ouest de la Lorraine, parfois avec de la grêle et du vent. On respirera mieux, 20 à 30 degrés, mais il fera encore chaud de Rhône-Alpes jusqu'au nord-est, 30 à 36 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois.
L'incendie de Castagné dans les Alpes-Maritimes est désormais maîtrisé. 300 pompiers sont toujours sur place au cas où. Mais l'air est pollué, prévient ce soir la préfecture, avec une concentration en particules fines jusqu'à 6 fois plus importante que le seuil recommandé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. De violents incendies de forêt qui font rage depuis plusieurs jours dans le sud de l'Europe, en France, mais aussi au Portugal, en Italie ou encore en Croatie, où les flammes ont atteint la banlieue de Split, la deuxième ville du pays. Là, ce sont 4500 hectares qui ont été détruits par le feu. 24 heures après le discours d'Emmanuel Macron hier devant les élus locaux, a toujours du mal à passer. Le chef de l'État promet aux collectivités locales un pacte, plus d'autonomie, mais exige des économies drastiques, baisse des budgets, diminution du nombre des élus locaux, suppression de la taxe d'habitation. Dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui, la pilule avait donc du mal à passer. Julie-Marie Lecomte.
À l'Assemblée, la colère s'affiche. Ce n'était pas le cas hier. À droite, Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, n'hésite pas à dégainer l'accusation d'enfumage.
Si le président de la République avait eu du courage, il fallait qu'il explique combien de places de crèche on supprime, combien de polices municipales on supprime, combien de kilomètres de voirie on arrête d'entretenir. Le président de la République se grise de ses discours et il a le sentiment qu'à chaque fois il fait un discours, il fait une réforme. Mais la réforme, c'est plus compliqué.
Au nom des socialistes, Éric Cabrèche résume, dans tous les cas, c'est le président qui tient le stylo. La volonté de réduire le nombre d'élus locaux suscite également le malaise. et pas seulement chez le communiste Sébastien Jumel.
Je suis député d'une circonscription avec 172 communes. Il y a dans ces territoires des élus bénévoles qui donnent la main au comité des fêtes, qui prêtent la main en cas d'inondation, qui sont dans une démarche d'écoute de populations éloignées des grandes métropoles. Et on voudrait s'en prendre à cette France de proximité, mais le président de la République a été sourd à ce que le vote a exprimé et aux élections présidentielles et aux élections législatives.
Résultat, même chez les constructifs, on tique, oui, aux économies, mais pas 13 milliards, un objectif inatteignable, et l'on promet dans les discussions plus que de la vigilance, de l'exigence.
Julie-Marie Lecomte, François Léotard, mis en examen dans le volet ministériel de l'affaire Carachil. L'enquête porte sur des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, c'était en 95. Les enquêteurs se demandent en clair si l'ex-ministre de la Défense n'a pas cherché à se constituer un trésor de guerre en vue de la présidentielle suivante, celle de 2002, dans la vente de sous-marins au Pakistan, 94. François Léotard est poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux. Il est 20h33 sur France Info, les informés, suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Et eux, ils ne fréquentent qu'une seule plage, hein, celle de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, le député de Seine-Saint-Denis, France Insoumise Alexis Corbière, chef d'entreprise Xavier Alberti et Sybille Vincendon de Libération. Alors l'été, c'est connu, on prend soin de soi, on est bien, tout en délicatesse. Sur la plage, le ventre nu, on se palpe la couenne et on se dit toujours, allez, j'en profite pour faire un petit régime, melon et eau pendant 3 semaines, c'est bon. Et puis on ne sait pas pourquoi, le rosé nous rattrape et la rentrée ne sera pas aussi fine que prévu. Le gouvernement vous a entendu 5 sur 5 puisqu'en ce début d'été, il a décidé de mettre tout le monde au régime. Les ministères vont devoir faire des économies, les militaires ne sont pas contents, les fonctionnaires voient leur point d'indice gelé et le retour du jour de carence en cas de congé maladie. Et hier, nous apprenions que les collectivités locales vont devoir économiser 13 milliards sur 5 ans. Et avec tout ça, pas de rosé ni de melon et tout ça inquiète Charles-Henri Lemagnien, président de l'Assemblée des communautés de France.
Je ne voudrais pas qu'on soit dans les mêmes inquiétudes que l'Allemagne, où aujourd'hui les équipements publics sont dans un état calamiteux, tout simplement parce que les collectivités locales en Allemagne n'ont pas investi pendant 10 ans. Bien sûr, on continuera à faire quelques équipements neufs qu'on ira inaugurer, mais en fait, tout ce qui est gros entretien, on le reporte, on retarde, ça coûtera à terme beaucoup plus cher.
Voilà, Charles-Éric Lemagnien, président de l'Assemblée des communautés de France. Alors, Sybille Vincendon, depuis hier, il y a de nombreux élus locaux qui affirment leur mécontentement. Ils disent c'est toujours sur nous que ça tombe. Voilà, on doit toujours
faire des économies. Ils ont un argument chiffré. Ils disent nous, on dépense, on représente à peu près 20% de la dépense publique. On nous demande de participer à 50% de l'économie pour obtenir la baisse du déficit à 3%. Alors, d'un côté, le gouvernement leur dit il n'y aura pas de baisse des dotations globales de fonctionnement, qui était l'arme fatale qu'avait utilisée Valls. Donc, ça a l'air plus doux. D'un autre côté, eux n'y croient pas. Et ils ont raison de ne pas y croire, parce que, à mon avis, avec le train de vie, avec les voitures avec chauffeur et ce genre de choses qui ne sont pas non plus, à part dans les très grandes villes, enfin, il n'y a pas beaucoup à gratter là-dessus. De même, d'ailleurs, que j'ai des doutes qu'on puisse économiser sur le budget de l'État en grattant le train de vie.
Oui, bien sûr.
On améliorera peut-être un peu la morale des choses, mais on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Donc, je comprends le doute des élus. D'un autre côté, malgré tout, ils ont beaucoup d'économies à faire dans les doublons de leur structure. Dès lors qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'intercommunalités, et encore plus que la gauche ne l'avait jamais espéré, ils ont beaucoup, beaucoup de postes en doublon dans leur fonction publique.
Et en même temps, Julie Vintraube, on entend beaucoup, par exemple, de présidents de départements qui disent ben, il y a certains départements qui n'arrivent plus à payer le RSA, déjà aujourd'hui.
Oui,
donc
absolument.
On se demande à faire encore plus d'économies.
Oui, absolument. Moi, j'ai remarqué, comme tout le monde, que les collectivités locales, que ce soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, hurlent à chaque fois qu'elles sont à l'os, qu'elles ne peuvent absolument pas faire d'efforts supplémentaires. Mais l'État a manqué à sa parole à plusieurs reprises, a transféré, voire attribué des compétences que les collectivités n'avaient pas demandées. Je pense au rythme, à la réforme des rythmes scolaires pour les mairies, qui est une catastrophe absolue. Ce qui n'empêche que les dépenses de personnel, qui est un des plus gros postes pour les collectivités, locales, toutes confondues, ont explosé et n'arrêtent pas d'augmenter de façon exponentielle et qu'effectivement, elles devraient rationaliser leur fonctionnement. Mais la méthode choisie a de quoi déplaire. D'abord, 13 milliards au lieu de 10, la surprise du chef. Ouais,
c'est Gilles Carrez qui a sorti ce chiffre.
Ouais, non, c'était 10, hein, si. c'était confirmé.
C'était 10, mais lui, il a sorti 13 et il a crédibilisé.
C'est vrai que ce matin, Gérard Larcher, président du Sénat, a semblé
surpris. Gilles Carrez, le problème, c'est que c'est un type honnête. Par exemple, c'est lui qui avait sorti qu'il manquait 6 ou 7 milliards pour boucler le budget 2017.
Xavier Alberti,
et ils l'ont découvert. Ils ont attendu que la Cour des comptes leur dise.
Est-ce que c'est possible, finalement, aujourd'hui, de faire toutes ces économies sans jamais, bien sûr, augmenter un seul impôt? Parce qu'on se dit, tout le monde va en bénéficier, on baisse ses économies, vous êtes moins payés, on n'augmente pas les impôts. Est-ce que c'est possible? Bruno Le Maire avait dit que c'est possible, ministre de l'économie. Est-ce que, d'après vous, on peut aujourd'hui, même localement, subvenir aux besoins d'une commune, d'un département, sans augmenter, par exemple, certaines taxes, alors que, par exemple, la taxe d'habitation sera supprimée, ou d'autres, ou quand on demande de faire des économies?
C'est impossible de continuer à faire comme on fait jusqu'à présent. Mmh. De toute façon, il y a quand même le mur de la réalité qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à dépenser plus que ce que l'on gagne. Je voudrais revenir sur ce que disait Sybille. Il ne porte pas 50% de l'économie. Hein. L'économie, c'est 60 milliards. Ils en portent 13, donc on est loin des 50. Et il va falloir qu'ils fassent quelque chose qui est, pour moi, chef d'entreprise, pas très novateur. C'est-à-dire faire la même chose, préserver le niveau de prestation en dépensant moins. Ça s'appelle faire de la compétitivité. Et les entreprises, elles font ça tous les jours. Je vais vous dire, les ménages font ça tous les jours. Donc, les collectivités territoriales, elles peuvent le faire. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est tout à fait faisable, en particulier sur les
frais personnels. Il n'y a pas une volonté de low cost derrière, de collectivité locale de low cost?
Mais ça, c'est le réflexe habituel qui est de dire, alors s'il y a moins de moyens, il y aura moins de prestations. Je n'ai pas dit que c'était simple. Ouais. Je dis que faire de la compétitivité, c'est possible, et c'est possible aussi pour les collectivités territoriales.
Mais ça a un effet macroéconomique quand même, parce que quand il y a eu la première baisse des dotations, ils ont fait ça quand même sur 3 ans. C'est vrai que les travaux publics en particulier ont vraiment, vraiment morflé.
Alors,
beaucoup de dépenses d'entretien.
Oui, parce qu'il y a aussi des postes auxquels les collectivités locales n'ont pas touché, parce que ce sont des élus et qui veulent caresser leur électorat.
Oui, enfin,
Je voudrais juste, Alexis Corbière, justement, sur ce chiffre.
Ça coûte plus cher.
Ce chiffre de 13 milliards, l'important, 13 milliards d'économies en 5 ans. Vous pensez aujourd'hui que ces collectivités sont prêtes et même cette taxe d'habitation, vous êtes pour ou pas, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation?
C'est toujours bien de dire on va supprimer la taxe d'habitation, mais si elle est compensée par rien, ça veut dire moins de recettes pour les communes. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, tout le monde sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un problème. On a des équipements publics qui sont en situation difficile, de tension, des écoles publiques où il y a beaucoup à investir encore aujourd'hui. Par ailleurs, je pense notamment à Montreuil, avec un rajeunissement, etc., il y aurait des collèges à construire et des écoles. Et c'est pas en plus ce qu'il y a de pire en Seine-Saint-Denis. Donc on sait très bien qu'en réalité, ça va étrangler les communes.
Elle va être compensée.
Ben, on ne le sait toujours pas.
Vous
le savez.
On sait bien sûr qu'elle sera compensée.
Ça va être compensée
par la CSG.
On n'en sait rien. C'est d'ailleurs ce qui inquiète. Et le but, compenser comment? Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment.
Probablement par un transfert de CSG ou de CRDS, mais elle sera compensée.
Alors, la CSG, je dis à ce micro que c'est scandaleux, par exemple, qu'on augmente la CSG et que notamment nos retraités qui gagnent une pension de plus de 1200 euros se voient, à la fin de l'année, payer 250 à 300 euros de plus. Alors, si l'idée, c'est effectivement que c'est nos vieux, nos anciens, et notamment ceux qui ont une pension moyenne, qui vont voir augmenter leurs impôts, je dis que d'un point de vue républicain, c'est scandaleux. Alors, parce que moi, je ne suis pas pour m'évanouir dès qu'on parle d'impôts. Je suis pour une autre fiscalité. Il y a des gens très riches de ce pays qui peuvent payer plus, mais il faut avoir le courage d'une révolution fiscale. Parce que dire, on va payer moins d'impôts, je sais pas à qui on parle.
Alors,
si c'est pour baisser l'ISF, et à l'inverse, augmenter la CSG pour nos vieux, je crie au scandale.
C'était justement une question après, et je vous assure, Sylvain Sordo, que je vous laisse la parole. Dans un instant, l'info à 20h40, c'est Emmanuel Langlois.
7 départements de Normandie et de Nouvelle-Aquitaine en alerte aux orages. Toujours ce soir, la vigilance est en revanche levée en Bretagne, où près de 9000 foyers restent privés d'électricité à cause des violentes averses, parfois accompagnées de chutes de grêle. Le tribunal de commerce de Poitiers se prononce demain, mercredi, sur la reprise de l'équipementier en difficulté GMES. D'après Bercy, il manque 5 millions d'euros. Que refuserait, affirme le ministère, de payer les constructeurs automobiles? Les salariés de GMS bloquent ce soir le site Renault de Villeroy dans l'Yonne. Audition au Sénat pour Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, reconnaît que l'objectif de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France d'ici à 2025 sera difficile à tenir. L'Australien Michael Matthews remporte au sprint la 16e étape du Tour de France après examen de la photo finish. C'était tout à l'heure à Romans-sur-Isère. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune du foot et l'équipe de France féminine qui effectue dans quelques minutes son entrée dans l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Les Bleus qui affrontent l'Islande. La France organisera le prochain mondial. Ce sera dans 2 ans.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, la France peut-être bientôt au régime sec, on ne sait pas. En tout cas, voilà, ça pourrait être compensé, hein, toutes ces économies demandées par Emmanuel Macron. Sybille Vincent, donc, vous vouliez réagir à ce que disait Xavier Alberti.
Absolument, sur la compensation et sur le fait de savoir si l'État va compenser correctement. Il se trouve qu'en tant que vieille journaliste qui s'occupe des collectivités territoriales, expérimentée, face à Xavier Alberti, qui n'a jamais géré une collectivité,
qui débarque
totalement, et Alexis Corbière, qui n'en a pas encore géré derrière, beaucoup, je peux leur dire d'expérience que les compensations sont parfaites la première année et totalement statiques les années qui suivent, ce qui fait que les dépenses ne sont pas compensées. Et je parle même pas des choses plus que les rythmes scolaires qui, à mon avis, relèvent des collectivités, de même que les cantines,
les centres de loisirs. Pourvu qu'elles n'ont pas eu.
Mais quand on transfère la gestion des cartes d'identité aux communes, je comprends qu'ils soient un peu troublés quand même.
Alors, Julie Vintraube, en ce moment, on en parle beaucoup parce que c'est un petit peu l'actualité, parce qu'il y aura un rendez-vous vendredi à 18h que tout le monde va scruter. C'est celui avec Pierre de Villiers, donc le chef d'état-major, qui lui, justement, parle des économies, mais sur l'armée. Et c'est vrai que nombreux sont à s'interroger en se disant, est-ce qu'il ne faut pas sanctuariser finalement même certains ministères, en se disant, est-ce qu'on, vu le contexte actuel, est-ce que c'est là où il faut faire des économies.
La décision de supprimer 850 millions d'euros est illisible et la façon dont elle a été annoncée puis défendue par Emmanuel Macron n'a fait qu'aggraver les choses. Je ne sais pas comment ça marche à France Info.
Très bien.
Dans une boîte normale, on ne réprimande pas un adjoint devant ses subordonnés.
Bien sûr. Je peux raconter parce que je suis à la commission défense.
Oui, pardon. Alors allez-y.
Juste un mot, c'est absolument. La commission de la défense est le lieu où un chef d'état-major des armées doit dire ce qu'il pense des moyens qui lui sont attribués et s'il peut ou non accomplir les missions qui lui sont confiées avec les 10 moyens. C'est censé être à huis clos. Et si on grimpe au rideau parce qu'il a dit « je ne vais pas me faire baiser », excusez-moi, c'est pas grand-chose.
Voilà, non, mais c'est juste ce que vous avez dit est important. C'est-à-dire que normalement, ce n'était pas des propos publics. Hein. Il ne l'a pas dit ni dans un journal, ni sur une radio, ni sur une télé.
Alors, et le parlementaire contrôle.
Je peux faire le récit du jeune parlementaire. J'ai choisi la commission défense armée, sujet sur lequel je suis peu expérimenté, mais où je pense me cultiver parce que c'est important.
Bien sûr.
J'ai eu l'honneur de participer à cette audition, le général Pierre de Villiers, qui, une semaine avant, nous avions eu Madame Parly. Moi, j'ai été très impressionné parce que pendant 45 minutes, déjà, c'est un homme extrêmement rigoureux, précis, qui dit des choses qui sont, quand on a une certaine idée comme moi, de ce que doit être la souveraineté de la France, de nos missions et du rayonnement de la France, notre armée y participe à sa façon, même si je suis un pacifiste, mais aujourd'hui, on est dans une période de tension internationale dans laquelle notre armée permet aussi d'être un facteur de paix. Bref, quand au bout d'un moment, vous avez cet homme qui vous dit que par rapport parce qu'il faut suivre l'histoire. Il vient de passer 2 ans, il est reconduit le 1er juillet où manifestement des promesses lui ont été faites et qui se retrouve dans une situation où les promesses qui étaient de passer à 2% du PIB se retrouvent très concrètement 3 semaines après avoir été reconduit à une situation où on vient de lui expliquer, mon général, maintenant c'est 850 millions de moins. Cet homme, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est des choses, et j'ai pris l'engagement de ne pas les répéter, mais c'est quand même la sécurité de nos armées. Je veux dire, un jeune homme de 20 ans qui s'engage dans l'armée française qu'on envoie sur le terrain, moi je comprends qu'un général dise, au bout d'un moment, il y a une situation où, en responsabilité, devant les parlementaires, il y a un problème. Lui, il obéira. Il veut que le pouvoir politique prenne ses responsabilités. C'est ça qu'il nous a dit. C'est pas un golpiste, pour le coup. C'est pas un homme qui invite l'armée à faire. Mais il dit politiquement, en fonction des missions qui sont les miennes, on est, il y a un problème. Et au bout d'un moment, il appelle ça le grand écart. Il a une expression, en plus, le je veux pas me faire baiser, c'est un peu fleuri, mais c'est, si on me dit des choses, et en plus qu'on veut modifier le périmètre, parce que c'est ça, si on dit, vous avez 2% du PIB, mais qu'on rentre dedans, notamment les pensions des anciens combattants qui participent pas aujourd'hui au budget des armées, on peut annoncer un chiffre qui correspond pas à la réalité. Moi, j'ai vu un homme intègre, honnête, franchement, ça m'a assez impressionné. Et je trouve fort maladroit la manière dont le chef de l'État lui tape sur le nez. Parce qu'il a le droit de parler devant les parlementaires.
Et la manière dont il lui dit « je suis le chef
». Mais ce qui n'est pas faux en même temps.
Non, c'est pas faux.
C'est évident que l'armée doit obéir au pouvoir politique.
Que les choses soient claires. L'armée doit obéir au pouvoir politique.
C'est justement parce que c'est vrai que c'est pas la peine de le dire.
D'accord. Xavier Alberti, pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est là aussi, ça doit être touché comme n'importe quel autre ministère, finalement, aujourd'hui? On sait bien, la défense n'est pas n'importe quel ministère. D'ailleurs, dans l'ordre de gouvernement, la ministre d'armée, c'est la numéro 2, juste après Édouard Philippe.
Il est touché. On est sur un plan quinquennal, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses un tout petit peu en perspective. Emmanuel Macron a pris des engagements, il a dit qu'il les tiendrait, il les tiendra sur son quinquennat. Et donc, c'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs au chef d'état-major, c'est-à-dire « je tiendrai mes engagements ». Il se trouve qu'il y a quand même 8 à 9 milliards de trous supplémentaires à combler et que donc il faut que tout le monde...
La fameuse surprise.
Il faut que tout le monde, à un moment donné, accepte de jouer le jeu et prenne ses responsabilités, parce qu'on vient de parler de responsabilité. Il y a aussi la responsabilité de tous les corps, l'armée, l'éducation nationale, la recherche, les collectivités territoriales. Tout le monde, à un moment donné, effectivement, doit jouer le jeu. Les citoyens vont le faire aussi. Enfin, tout le monde va le faire pour dire on ne peut pas continuer à avoir à creuser le déficit tous les ans et à se retrouver avec 2000 milliards de dettes, c'est-à-dire 100% du PIB. On ne peut pas continuer. Voilà, c'est catastrophique.
Ça, Xavier, vous l'avez répété déjà. Je pense qu'il peut y avoir des investissements publics qui relancent l'activité économique.
Il y a un plan de 50 milliards d'investissements sur le quinquennat. Non, mais il y a un plan de 50 milliards d'investissements. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de plan d'investissement. C'est le plan le plus agressif d'investissement de la 5e République. 50 milliards.
D'accord, mais on ne peut pas répéter comme dire il n'y aura pas de conséquences, on va passer à 2%, mais ça commence par une baisse de 850 millions. De la même façon, je ne veux pas être cruel avec notre plus célèbre matheux, je vous dis avec beaucoup de respect, M. Vileni, qui va défendre le fait que les 310 millions, non mais en plus il est super, hein, c'est un homme très intelligent pour le coup, et Jean-Luc le disait avec respect, mais qui vient de dire pauvre de lui, il vient expliquer que les 310 millions de moins pour l'enseignement supérieur n'auront aucune conséquence sur l'enseignement supérieur et la recherche. Alors au bout d'un moment, si vous m'expliquez que 850 millions de moins dans l'armée, ça n'a pas de conséquences, 310 millions de moins dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça n'a pas de conséquences.
On n'a pas dit que ça n'avait pas de conséquences. Bon,
donc c'est ça
on a,
que
on a
donc,
dit, bien sûr donc, que ça a
donc,
des conséquences.
On touche là le et en même temps de Macron qui est assez saoulant. Bon, il faut assumer. Soit cet homme nous dit pour des raisons, il y aura des conséquences. Et je comprends. Le général, il vient dire une chose. On en revient au point de départ. Il vient dire tout est possible. On peut supprimer 850 millions. Mais si on le fait, ça a des conséquences.
Ça a des conséquences.
C'est tout. Et lui, en responsabilité, qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas là pour faire un numéro de claquette, il dit ça a des conséquences. Et il invite, quelque part, le pouvoir politique à dire dites-nous les conséquences. On peut partir du Mali, on peut se désengager, on peut passer totalement sous le contrôle de l'OTAN, on peut faire une défense européenne avec les... Non, mais c'est ça le sujet.
Ouais, voilà, est-ce que... On est déjà sous le contrôle de l'OTAN.
Alexis, si je peux...
C'est de la politique, ça.
Juste une précision, quand on regarde quels sont les domaines dans lesquels ces 850 millions... d'économies sont censées s'exercer, on trouve quoi ? Le matériel. Or, qu'est-ce qu'on lit à longueur de reportage ?
Je vous conseille les pages reportage du Figaro et Libération.
Exactement.
Qu'un hélicoptère Tigre sur 4 est en état de voler, que le matériel est
dédié. Je dis, je vais donner un chiffre. Le seul chiffre que je vais donner, 60% du matériel sur le terrain, selon le général, n'est pas blindé. Voilà.
Et c'est ce que nos reporters constatent.
C'est un petit... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais ça vous interpelle. Oui. Voilà, je veux dire, moi, j'ai pas envie... quand on vous dit que ça a des conséquences et quand un homme vous dit que quand il s'adresse à une famille d'un soldat qui est tombé, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, lui, il obéira aux ordres. Mais il veut qu'on lui parle clair. Ça a des conséquences. Voilà, c'est tout.
Il démissionnera.
C'est pas une affaire personnelle.
Quand vous dites « je ne suis pas en situation d'accomplir la mission voilà, que c'est vous tout me confiez »,
C'est ça qu'il a dit.
Et que ça comprend, comme vous l'avez fort justement rappelé, la sécurité des hommes qui sont sous son commandement, on s'en va dans ces cas-là.
Allez, dans un instant, nous allons parler de personnes qui vont faire l'actualité en fin de semaine, puisqu'il y a un congrès qui s'organise, le Front National. L'info à 20h50, c'est Emmanuel Langlois.
François Léotard, mis en examen dans l'affaire Karachi, les enquêteurs se demandent si l'ex-ministre de la Défense n'a pas cherché à se constituer un trésor de guerre en vue de la présidentielle de 2002 dans la vente de sous-marins au Pakistan en 1994. Avant lui, fin mai, Édouard Balladur avait également été mis en examen dans cette affaire de Karachi. Tous les élèves ne seront pas logés à la même enseigne à la rentrée de septembre. Près d'un tiers des écoles primaires optent en effet pour le retour à la semaine de 4 jours. À la place de 4 jours et demi, système instauré sous le quinquennat de François Hollande, sont les chiffres du ministère publiés ce soir. L'église frappée par un scandale sans précédent en Allemagne, où une enquête révèle que plus de 500 garçons et jeunes adolescents du célèbre chœur catholique de Ratisbonne ont été victimes de sévices, dont des viols. Les faits remontent entre 1945 et le début des années 90. Daimler rappelle plus de 3 millions de Mercedes diesel à travers l'Europe. Le constructeur est soupçonné de tricherie sur la pollution en Allemagne et étend donc sa demande de rappel à toute l'Europe. De l'or historique pour Laura Marino et Mathieu Rosset, les deux Français champions d'Europe en titre sont sacrés ce soir champions du monde de l'épreuve de plongeon par équipe à Budapest. Ils offrent à la France sa toute première médaille mondiale dans la discipline.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste peu de temps pour en parler, mais on en parlera de toute façon dès vendredi. Chaque été, vous savez, des gens disparaissent en bord de mer, en forêt, dans les chemins caillouteux de la douce campagne. Ils avertissent les voisins en disant qu'ils vont faire une promenade, on les revoit plus. Et dans notre série Les Grands Disparus de l'été, aujourd'hui, Marine Le Pen, puisque fort de ses 11 millions de voix à la présidentielle, la dirigeante du parti frontiste semblait avoir investi le terrain social et s'apprêtait même à livrer, elle le disait, à une féroce bataille sur la loi travail. Résultat, avec 8 députés Front National et une crise interne, Marine Le Pen est aux abonnés absents. On sait qu'elle veut changer le parti du sol au plafond. En plus, maintenant que la chambre du père est libre, hein, on va pouvoir refaire la déco. Mais gardons quand même les plafonds vermoulus, c'est tellement typique. Euro, pas euro, Philippot, pas Philippot. Marine Le Pen aborde l'été sur le voilier du coup de mou. Hein. Il va pas très vite en attendant le prochain donc séminaire à partir de vendredi du parti d'extrême droite. Mais pas de panique, hein. Il faut tenir. C'est ce que nous indiquent les fidèles de Marine Le Pen. Alors, justement, Julie de Vintraud, pourquoi finalement ce silence de Marine Le Pen? On l'a vu de temps en temps un peu apostropher certaines personnes à l'Assemblée nationale, mais sur la loi travail dont elle nous parlait régulièrement pour la présidentielle, rien.
Bah, mon collègue Emmanuel Galliero l'explique très très bien dans le Figaro d'hier. Il s'est procuré un courrier interne de Florian Philippot, très bien fait, très, très cohérent, qui vise à expliquer aux militants du FN, aux militants, aux adhérents du FN et bien sûr à la direction, en préparation de la bataille qui s'annonce au séminaire, que si on enlève la sortie de la France de l'euro, du projet du Front National, eh ben le projet s'écroule. C'est la clé de voûte. Mmh. Alors, je ne suis pas du tout sur le fond. Je ne dis pas que c'est bien de sortir de l'euro ou que c'est mal. Mais il a tout à fait de raison de souligner que tout ça est une cohérence. Et en face, vous avez Marine Le Pen qui se dit « ça a mal marché, donc je vais enlever le truc qui se voit, qui fait peur, et ça va aller très bien comme ça ». Donc c'est vraiment une bagarre qui met en cause l'existence du Front National, ou en tout cas ce qu'il va être, hein, oui. Puisqu'on sait qu'il avait démarré vaguement libéral, parce que c'est faire bien honneur à Jean-Marie Le Pen de penser que c'était un théoricien en économie, mais vaguement libéral, disons.
C'était Ronald Reagan français.
Alors ça, c'était une caricature, vaguement libéral et conservateur sur le plan des mœurs. Et là, vous avez Philippot qui dit « Je ne comprends pas pourquoi il a fallu tellement de temps à Marine Le Pen pour dire que oui, on était pour la préservation du droit à l'avortement, oui, on était pour la contraception. En revanche, on fait pas assez social et il faut rester sur le Frexit. »
Ah, c'est ça. Alors justement, Xavier Alberti, 11 millions de voix, tout de même, c'est la première fois en France hein, que le Front National fait autant de voix au second tour de la présidentielle. 8 députés, bon, le bilan est pas terrible, mais est-ce que ça veut dire que le poids du Front National politique est affaibli?
J'ai une double lecture de ce qui se passe au Front National. La première, c'est que je pense que c'est Marine Le Pen qui est affaiblie. Elle est toujours affaiblie par l'accident industriel du débat du second tour. Également, finalement, par l'ampleur du score du second tour. Il a été sévère. Tout le monde s'attendait à un moment donné à ce qu'elle puisse passer la barre des 40%.
Non,
ça n'a pas été le cas.
Mais pour
ça a été beaucoup
dit.
Le Front National fait une mauvaise législative.
Par rapport à dont il était crédité. Oui.
Donc, il y a, à mon avis, déjà, on est toujours dans l'impact interne, d'ailleurs, au Front National de tous ces échecs, finalement. Même si les 11 millions de voix sont là, je vais y revenir à la fin. Ouais. Le deuxième sujet, c'est qu'il n'y a plus de colonne vertébrale idéologique. Enfin, la politique, c'est d'abord avoir un corpus idéologique au profit d'un projet.
Il y en a
plus,
donc
quand il y en a plus, ça s'effondre. Mmh. Et il n'y a pas qu'elle à qui ça arrive. Hein. C'est arrivé aux Républicains et c'est arrivé aux Socialistes à peu près de la même manière. C'est-à-dire que si à un moment donné, elle n'est plus capable de se retrouver sur une ligne qui est claire, c'est ce que font très bien les Insoumis et ce qu'a très bien fait En Marche également, ben, on n'est plus capable d'agréger, de créer les valeurs centrales de cohésion. Le dernier sujet, c'est les 11 millions de voix. C'est-à-dire que là où il ne faut pas se leurrer, c'est que le vote du Front National, c'est un vote de détresse, et que les 11 millions de voix, elles ne se sont pas tues. Mmh. Elles sont toujours là. Et il faut faire attention à ce que le mouvement très violent de dégagisme qu'il y a eu sur les dernières échéances électorales ne se transforme pas dans un mouvement qui peut être également aussi dur, voire violent. Alors, dans d'autres formes, et que ce soit économique ou social.
Juste qu'on entend tout le monde, Sylvie Vincent, non ?
Moi, j'ai l'impression que quand même, ce qui est apparu dans l'accident industriel, comme dit Xavier, sur le débat, c'est qu'elle n'avait qu'une seule stratégie et elle n'avait pas de plan B. C'est-à-dire qu'elle aurait pu jouer quelque chose du genre « je suis constructive, j'ai travaillé mes dossiers, d'accord, c'est pas forcément pour cette fois, mais je prends date pour l'avenir ». Et elle s'est flinguée. Mais à mon avis, parce que véritablement, elle ne savait pas faire autre chose que être dans l'invective, parce qu'elle a grandi là-dedans et parce que c'est son seul mode de pensée.
Alors,
or, ouais. C'est elle qui s'est écroulée. Et effectivement, le vote des 11 millions, lui, il n'est pas tombé.
Alexis Corbière, vous, justement, comment vous, bien sûr, alors, justement, vous présentez contre le Front National, mais comment vous le voyez aujourd'hui, justement, ce Front National qui était au second tour.
Oui, moi, je ne crois pas que ce soit un problème de personnel, en réalité. C'est un vrai problème de ligne politique. Et c'est intéressant pour ceux qui aiment la politique. Il y a deux projets désormais, soit l'union des droites. C'est-à-dire ceux qui pensent que la droite est en crise, on va recomposer, hein, c'est rassembler l'union des droites, avec des figures, on va dire, pour simplifier, Marion Maréchal-Le Pen, etc., qui peut incarner ça.
C'est retiré de la politique. Faites-moi la liste des dirigeants du parti qui s'appelle encore les Républicains, qui sont prêts à nouer une alliance avec des membres du Front National.
Non, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Non, mais c'est la ligne qui consiste à dire.
Ça va se terminer. Donc
on est trop social, on ressemble trop, en gros, on parle trop comme Mélenchon, quoi. Soit ceux qui pensaient qu'il allait y avoir une ligne, on va dire, patriotique, qui allait en quelque sorte nous englober là-dedans. Quand je dis nous, c'est-à-dire que l'idée, c'est l'appel de Marine Le Pen pour les insoumis. Sauf qu'on existe et ça marche pas, parce qu'il y a une autre ligne politique, critique vis-à-vis de l'Europe, mais qui reste sociale, qui n'est pas d'accord avec le projet qui vise à faire porter la responsabilité aux étrangers de la crise, etc., et qui vient bloquer le FN. Ils sont bloqués. Je veux dire, l'apparition de la France insoumise est un problème objectif pour le Front National, comme quoi nous sommes efficaces pour le Front National. On verra comment ils trancheront ça. Les questions de personnes sont secondaires. C'est possible que ça se tranche sur une ligne de l'union des droites, mais c'est possible que la droite ne voulant pas participer à ça, ça fasse
pchit. On verra ça. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Il n'y a pas de souci, non, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Merci beaucoup, Xavier Alberti, d'être passé ce soir. Gilles Vintraube, la une du Figaro demain.
On se penche sur les 6 mois de Trump, 6 mois de tumulte pour peu de résultats.
Et la une de Libération, Sylvie Vincent Don.
Sur les centres-villes en déshérence, comment sauver nos centres-villes.